Chapitre 3 Puissance du cœur. Les deux jeunes gens avaient quitté Paris et ils étaient allés se perdre dans le désert français dont Marcel avait parlé à Lucien. Ainsi qu'une chaste baigneuse qui ne s'empesait sur elle aucun regard indiscret, la nature y dévoilait ses beautés les plus intimes. Elle y faisait chanter ses ruisseaux, bondir ses torrents. Elle cassait ses vieux os de rochers en arêtes vives. Elle sablait d'or, de rubis, de saphir, le manteau vert de ses prairies. Ce lieu sauvage s'appelait Saint-Léonard. On n'y voyait que quelques pauvres maisons qui apparaissaient çà et là, à travers les rochers, comme des verrues à la face d'un géant. La rivière cascadait entre les blocs de granit éboulés, qui formaient mille petites îles couronnées de joncs, de myosotis, d'iris d'eau. Un moulin, assis au milieu d'une prairie, agitait ses grands bras dans les ondes diamantées. La chèvre barbue sautelait et broutait l'herbe roussie des mamelons. Les oies chevauchaient en braillant sur les pelouses et quelques paysans, à demi sauvages, labouraient avec la bêche des pentes impossibles à la charrue pour y semer un peu de blé. Les deux jeunes gens s'étaient installés dans une maisonnette de pêcheurs. Les filets qui séchaient à la porte avaient séduit la fantaisie de l'artiste. Ce n'était ni luxueux, ni même confortable. Mais que leur importait à eux? Ils étaient venus pour s'identifier à la nature, pour l'admirer et la comprendre dans toutes ses manifestations. À son puissant contact, le cœur se dilate et s'assouplit, l'esprit s'agrandit en se reposant. Il ne s'endort pas, il se tranquillise. En paraissant sommeiller, il rêve. Toutes les grandes scènes dont il se fait le centre se reflètent en lui. Mais elle se reflète en s'idéalisant de sa poésie, en se réchauffant à son foyer d'amour. Et, quelquefois, cette photographie de la nature dans l'âme humaine est plus belle que la nature même. Dans chaque heure du jour, ombreuse ou rayonnante, il voyait se refléter une phase de la vie humaine. Le matin, tout s'agite, tout sourit, tout semble heureux. La rivière, caressée par un amoureux rayon, babille avec ses bords. La rosée emperle les herbes fleuries et la brise court, légère et pure, sur le feuillage lustré par la lumière. Une brume bleuâtre voltige sur les prairies, noyant toute chose dans le flou de la jeunesse, si charmante au regard, et les oiseaux, en agitant leurs ailes, chantent l'hymne de l'éclosion, l'hymne de l'espérance, l'hymne de la promesse. À midi, heure dévorante, tout se tait et se concentre dans l'effort de la vie qui se complète. Le bruissement des insectes dans l'herbe, comme d'amoureuses caresses, se fait seul entendre. La nature n'a plus d'ombre, de réduit, de mystère. Elle se laisse envahir par le soleil et, inerte, s'abandonne à ses baisers, à ses morsures. Le soir, heure des remembrances, calme et recueillie, elle chante, avec le gosier du rossignol solitaire, la note mélancolique du crapaud, le frôlement des ailes de la chauve-souris et les légers zigzags des éphémères qui meurent. Elle chante sur un rythme grave les illusions perdues, les bonheurs enfuis et les douces souvenances de jeunesse qui amènent des soupirs dans le cœur et des larmes dans les yeux, souvenances qui murmurent encore les paroles d'autrefois alors que le dernier rayon s'est éteint, que la nuit se fait dans les cieux et dans l'âme, et enveloppe tout, hommes et choses, de sa brume froide et de son linceul de mort. Les deux jeunes gens sentaient en eux ce je ne sais quoi d'élargi, de reposé, que nous éprouvons toujours en contemplant la nature, mais cette quiétude ne devait pas durer. Un matin, Lucien, dont l'organisme avait été ébranlé peut-être par ses commotions parisiennes, se plaignit de lassitude et des douleurs de tête. Une fièvre ardente se déclara, puis survinrent des nausées, des évanouissements, du délire. Graves étaient ses symptômes, et Marcel regrettait vivement d'avoir entraîné son ami dans un lieu désert, dénué des ressources de la vie intelligente et de la vie confortable. Il envoya chercher le plus habile docteur de la contrée, du moins au dire des villageois. Ils étaient 7 médecins dans la ville la plus proche, située à 5 lieues de là. Quelques malignes langues, il n'en manque pas en province, les avaient surnommés les 7 péchés capitaux, et, comme leur patron légendaire, ils se partageaient le pays en véritable souverain. celui que le villageois ramenait avec lui, protecteur de toutes les jeunes filles du pays qu'il avait maintes fois, prétendait-on, ramené de trépas à vie, s'appelait le docteur du Rocher. On l'avait surnommé la Luxure. Il était grand, sec, sanguin, il avait une cambrure de carabinier, les mille trous de la petite vérole qui parsemait son visage s'injectaient de teintes violacées. Ses cheveux étaient roux, ses yeux bigles et meurillonnés, son nez charnu, sensuel comme celui de François Ier. Monté sur un roussin de tranquille allure, il fit dans le village une entrée presque triomphale. Les enfants couraient en riant après lui, les fileuses quittaient leurs rouées, les nourrices, avec leurs nourrissons dans les bras, s'élançaient sur le bord de leur porte pour le voir passer, et, se cambrant sur son cheval, il jouissait de l'effet qu'il produisait. Il interpellait les marmots et ne manquait pas de lancer une œillade assassine aux paysannes un peu fraîches qu'il apercevait. Puis c'était des consultations gratis que les uns et les autres venaient lui faire. Il avait beau leur dire « Je suis pressé, on m'attend, quand je repasserai », il était arrêté à chaque pas. Le paysan est tenace, surtout quand il s'agit de ses intérêts, et force lui était d'écouter quelque hâte qu'il eût d'arriver. En descendant de cheval, le docteur Durocher redressa sa cravate blanche, époussetait ses bottes avec son mouchoir, enferma ses grosses mains dans de mirifiques gants verts, car il ne voulait apparaître aux yeux de ses nouveaux clients que comme le digne émule de ses confrères de la capitale. Puis, d'un pas majestueux, il entra dans la chambre de Lucien. Il examina longuement le malade, il adressa de nombreuses questions à Marcel sur les premiers symptômes de la maladie. Puis, après avoir réfléchi profondément, il dit d'une voix solennelle « Ne brusquons rien, laissons agir la nature !» Et il se contenta de prescrire quelques boissons rafraîchissantes. En sortant, il hocha la tête et dit à demi-voix à Marcel « Eh, eh, il est bien malade, votre ami !»« Mon Dieu, monsieur !» s'écria le jeune homme avec angoisse, « ne pouvez-vous donc rien ?» « Laissons agir la nature, monsieur, elle peut tout. La jeunesse a d'immenses ressources, et avec de la prudence... » Et il partit. Marcel avait l'âme navrée d'abandonner la vie de son ami à cette sommité médicale. Il envoya chercher un autre docteur qui ne voulut point venir quand il sut que le docteur Durocher était déjà venu. Outre ses inquiétudes, les soins incessants qu'il prodiguait à Lucien... Il avait encore à conjurer le mauvais vouloir des paysans chez lesquels il logeait. Des paysans égoïstes au premier chef et toujours hostiles aux bourgeois, qui se donnent leurs aises, qui ne gagnent point comme eux leur pain à la sueur de leur front. La nouvelle de la maladie de Lucien s'était vite répandue dans le village. « C'est une fièvre maligne !» s'écriait-on de toutes parts. « Il va donner la maladie à la commune !»« Ils avaient bien besoin de nous venir, ces Parisiens !» Mais, à force de douceur, de patience et de sollicitude pour son cher malade, Marcel finit par conjurer cette tempête d'égoïsme déchaîné, et la vieille Martine, leur hôtesse, disait à ses voisines « Je ne sais vraiment point comment il résiste, ce petit gringalet de Parisien. Il passe les jours, il passe les nuits, il est là, toujours là, et puis si doux, et puis si empressé, qu'en vérité, on dirait que c'est une femme. » « Ah, si l'autre réchappe, il lui devra une belle chandelle, ainsi qu'à son saint patron. » Tous les jours, le docteur Durocher arrivait sur son trottinant roussin, enveloppé de sa longue redingote, paré de ses mirifiques gants verts. Tous les jours, il laissait tomber de ses lèvres hippocratiques cette grande sentence « Laissons agir la nature !» Et il remontait sur son petit cheval, enchanté de lui-même, enchanté de n'avoir pas fait de mal s'il n'avait pas fait de bien. Après 3 semaines d'angoisse, d'anxiété, de luttes entre la vie et la mort, cette bonne nature, qui a besoin d'être aidée parfois, quoi qu'on dise, fit enfin un effort suprême. Une crise favorable se déclara. Une nuit, Lucien, d'une voix affaiblie, appela Marcel, et, le regardant avec des yeux vagues encore, mais où un rayon de vie recommençait à poindre, il lui dit « Je me sens mieux. Quelle heure est-il » Marcel pressa longuement de ses lèvres le front pâle de son cher malade. Des larmes douces et chaudes coulèrent de ses yeux. Lucien était sauvé. Non pas sauvé par la science du docteur, mais par la tendresse de Marcel, qui lui avait versé toute son âme pour le ranimer. À la visite du matin, M. Durocher constata le commencement de la convalescence et, en se frottant les mains, il s'écria « Eh, eh, je puis me vanter de l'avoir amené de bien bas. Si je l'avais drogué comme tant de faiseurs qui, pour faire montre de leur science, où en serait-il aujourd'hui ?» La convalescence de Lucien fut rapide. Il était jeune, il était aimé, et puis on se rétablit si vite dans la paix des champs, loin du flot grondeur des soucis de la ville, inondé de tous les germes de vie que soulève le rayon et qu'emporte la brise du calice des fleurs, du tronc des arbres, des traînantes graminées, toutes artères où palpite la vie de la nature. Que Marcel était heureux lorsqu'il voyait son ami savourer les nouveautés de la convalescence. Car la maladie, après les avoir suspendues, rajeunit les sensations de l'homme. Il a des joies d'enfant, des craintes d'enfant, des gourmandises d'enfant. Il a oublié certaines phases de son existence, tout lui redevient une nouveauté. Et quand, assis tous deux dans les grandes herbes échauffées par une tiède journée d'automne, la main de Lucien serrait celle de Marcel, celui-ci, avec une expression étrange, attachait ses yeux sur les yeux de son ami, ses lèvres frémissantes semblaient vouloir s'ouvrir pour laisser échapper de lourdes confidences. Puis il détournait la tête, son regard se voilait. « Pas encore, » murmurait-il. Et il se taisait. Bientôt, Lucien reparla de retourner à Paris, car ses forces morales s'étaient ranimées en même temps que ses forces physiques. Il était impatient de venger sa défaite artistique. Marcel aurait désiré le garder quelque temps encore au milieu de cette nature si vivace, si puissamment tonique. Il craignait qu'il ne fût pas assez robuste pour entrer dans l'énervante atmosphère parisienne, pour se heurter de nouveau aux tiraillements, aux rivalités de la camaraderie artistique. Mais Lucien avait la fièvre de son atelier et Marcel l'aimait trop pour insister. Ils reprirent donc ensemble le chemin de Paris, l'un aussi désireux de le revoir qu'il avait été impatient de le quitter, l'autre avec un serrement de cœur inexprimable. L'intimité du cœur, dans la solitude de la nature, est toujours si bonne.